Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact@planettrail.com, sur LinkedIn, ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Eh ben écoute, ton son il est parfait Théo, et voilà, l'enregistrement est commencé. Comment vas-tu Théo? Là on enregistre le 26 décembre, juste après les fêtes. Comment ça va?
Eh ben écoute François, ça va très bien, merci pour l'invitation. Ouais, on est le 26 décembre, donc le ventre est bien plein, on a bien fait le plein de chocolat, de bûches, donc... On est reparti sur de bonnes notes.
Putain, cette bûche qui arrive après avoir déjà mangé. On en parlait hier, tu vois, cette bûche, tu vois, t'as déjà pu faim. Et là, tu vois un truc là qui arrive encore à manger, quoi. Non, j'en peux plus, quoi. Et paf!
Tu viens de manger la bûche au chocolat et puis il y a la bûche aux fruits rouges qui fait son apparition sur la table avec des meringues. Tu dis, c'est pas possible.
Quand ça va s'arrêter? C'est clair. Mais c'est une période qui est assez difficile pour s'entraîner, conjuguer sport et puis les fêtes. Tu vas courir aussi peut-être pour déculpabiliser un peu, mais en même temps tu te dis il faut bien que je déconnecte aussi, tu vois.
Bah exactement. Et puis c'est vrai que toute l'année je fais quand même attention à tout ce qui est nutrition. Donc je me dis c'est pas 2-3 jours de où je me laisse aller qui va me pénaliser sur la suite de la saison. Donc faut aussi savoir se faire plaisir et puis voilà, manger un petit peu de chocolat, partager de bons moments avec la famille, ça fait partie du jeu.
C'est ça. Alors Théo, on a déjà un petit peu commencé, mais est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît?
Oui, alors je m'appelle Théo Le Boudec, j'ai 22 ans, je suis originaire de Bretagne, donc j'habite à Saint-Brieuc et je pratique le trail running depuis maintenant 4 ans.
Alors tu vois, c'est marrant parce que il y a déjà j'aurais dit que tu avais 18 ans à cette époque-là, tu vois, donc et je te voyais déjà partager tes courses et même tes sorties d'entraînement où tu tapais des 30 bornes sur la côte là de Saint-Brieuc, et puis je voyais ces sorties à une vitesse hallucinante. Je me disais mais waouh, c'est qui ce gars-là? comment il fait pour aller aussi vite à 18 ans sur des distances qui, en plus, il y a 4 ans, me paraissaient longues, 30 bornes. Comment ça t'est venu, ce sport, le trail?
Mais je dirais naturellement. Alors, il faut savoir que j'ai fait 12 ans de football avant de me lancer dans le trail. Donc j'ai vraiment découvert ça un peu par hasard. Donc c'est mon père qui courait sur les courses du dimanche. Donc moi généralement je jouais le samedi et puis j'enchaînais sur des petits formats, des formats courts entre 5 et 15 km. Donc c'est vrai que j'y ai vite pris goût, et comme tu l'as dit, à 18 ans, j'avais déjà envie de me lancer sur des formats beaucoup plus longs. Donc quand je dis plus long, c'est vraiment 80, 100, 120 bornes. Et donc c'est vrai que c'est à l'entraînement où vraiment je me donnais, puisque sur les courses il faut avoir un certain âge pour pouvoir se lancer sur des formats plus longs, donc c'est vraiment à l'entraînement où j'avais aucune limite. Donc je partais tôt le matin à la frontale pour pouvoir me faire un petit lever de soleil et puis faire une bonne séance de 3-4 heures, une belle sortie quoi, sur nos
mais, tu vois, à 18 ans, moi, je me souviens que j'étais plutôt en train de cuver, tu vois, le dimanche matin. toi, tu partais tout de suite sur des distances longues qui demandent quand même une certaine rigueur en termes d'hygiène de vie, hein, parce que tu vois, tu peux difficilement terminer une soirée un samedi à 5 heures et puis partir à 8 pour faire un 30 bornes. Toi, ça t'a jamais valu des remarques où tu vois, dire ah, t'es trop jeune, va plus sur du plus court. T'as déjà dû prendre ce genre de trucs, non?
Ouais, forcément. Et puis, enfin, moi, c'est vrai que dans ma tête, il y avait à partir de 18 ans, il y avait quasiment que ce qui comptait, courir. Je pensais qu'à ça. Le matin au réveil, j'avais envie d'aller courir. Quand j'étais à l'école, les fesses sur la chaise, j'avais envie d'aller courir. Le soir en rentrant, j'avais envie d'aller courir. Donc, forcément, bah. Même quand je partais en soirée, on me posait toujours la question, mais Théo, pourquoi tu bois pas? Parce que moi, dans ma tête, bah voilà, j'avais l'entraînement, il fallait que j'aille m'entraîner, il fallait que j'aille courir. Donc, ouais, c'est vrai que c'est des questions qu'on me pose toujours, même, mais voilà, ça fait partie de mon petit train de vie, quoi.
Et socialement, c'est pas dur, ça?
Alors, ça a été dur à une période. C'est vrai que, donc, après le lycée, donc, j'ai intégré l'IUT. Donc là, forcément, bah, les soirées étudiantes tous les jeudis. Donc, et puis c'est vrai que moi, j'étais du genre un petit peu réservé. J'ai toujours été un petit peu différent. Je sais pas si on peut le dire comme ça. Et moi, ce que j'aimais, c'était vraiment cette solitude, entre guillemets, avec quand je partais courir, je me sentais vraiment, vraiment bien. Je pouvais passer des heures à courir sur le sentier. Et puis c'est là où je me retrouvais, quoi, au final. C'est là où j'étais le plus heureux. Que passer du temps en soirée à boire, à danser, c'est pas forcément ce qui me faisait vibrer, quoi. Moi, ce que j'attendais, c'est vraiment la fin de soirée, partir me coucher le plus tôt possible, et puis le lendemain, embrayer à 6h ou à 7h, et puis partir courir.
Alors, tu dis que t'étais plutôt un solitaire, et pourtant 12 ans de foot, sport d'équipe?
Ouais, sport d'équipe, mais tu vois, c'est quelque chose qui m'a plu jusqu'à mes 18 ans. Et puis ensuite, bah forcément... Il y avait la troisième mi-temps qui a montré le bout de son nez, et c'est là où bah, j'étais un petit peu moins à l'aise. Et puis je pense que j'avais aussi besoin de nouveautés, de découvrir un nouveau sport. Je pense que dans le football, j'ai fait le tour. Depuis tout petit, bah, j'avais envie d'atteindre le haut niveau, donc chose qui n'est pas arrivée. Donc j'avais besoin de rebondir, et puis voilà, j'ai découvert le trail un peu par hasard, et puis ça m'a plu, et ça a matché, et maintenant, voilà. Je ne regrette pas d'avoir pris cette bifurcation.
Ouais, parce qu'on n'a pas précisé, mais tu es quand même très très fort en course à pied, en trail. On pourra en parler, hein, tes bons résultats tout à l'heure. Mais avant ça, j'aimerais savoir d'où ça vient ce côté recherche de la performance, tu vois, parce que quand on prend un départ, il y a des gens qui vont être plutôt là juste pour terminer en bonne santé, il y en a qui vont être là pour partager avec des amis, toi tu es là pour la gagne, pourquoi?
Bah déjà, quand je jouais au football, c'était aussi pour la gagne. Quand on perdait, moi j'étais fou, je me remettais en question pendant toute la semaine, je m'entraînais encore plus pour pouvoir gagner le week-end et puis apporter, parce que forcément c'est un sport collectif, donc quand tu perds, c'est tu perds en équipe, que maintenant bah, en trail, tu perds, bah, c'est de ta faute, c'est parce que t'as mal géré ta course, parce que tu t'es pas bien entraîné, parce que t'as pas respecté le plan, donc voilà, ouais, forcément la compétition, c'est quelque chose qui m'animait déjà depuis le départ, et ça s'est retransmis dans la course à pied.
Et tu te dirais que ça vient de ton éducation, ton père, quand il prend les départs, là, le dimanche, lui, il est là pour quoi? Il est là pour aller taper un chrono, ou il est là pour le partage?
C'est plutôt cool. Alors, mon père, ouais, c'est plus pour le plaisir. Après, il a une carrière aussi de cycliste, où il roulait vraiment pour la gagne. Donc, je pense que oui, ça vient aussi de là, c'est dans les gènes. Après, je vais pas te mentir, hein, je suis pas toujours non plus focalisé sur la compétition. Ça m'arrive de faire des sorties à l'entraînement où voilà, je me prends pas la tête, je prends même pas la montre, et c'est juste voilà pour passer du bon temps en extérieur. Mais généralement, oui, quand je mets un dossard, c'est forcément pour être devant, c'est sûr.
Et alors, pourquoi être allé chercher l'augmentation des distances plutôt que des meilleurs chronos sur des distances plus courtes?
Alors, déjà, passer plus de temps en extérieur, c'est ce qui me plaisait. Sur des formats courts, t'as pas le temps de profiter, en fait. T'es vraiment au carton pendant tout l'effort. Que sur des formats un petit peu plus longs, et bah forcément, t'as des phases où t'es un petit peu plus à bloc, tu peux être au seuil, mais t'as aussi des phases où t'as le temps de souffler, de récupérer. Donc voilà, tu passes par différentes phases. Et moi, c'est ce qui me plaisait. Puis voilà, j'ai aussi plus un profil en lien avec l'endurance. Je vais pas dire que je suis pas un coureur rapide, mais je suis plus à l'aise sur des formats qui nécessitent où on va pouvoir passer plus de temps en extérieur.
Ouais, parce que là, je viens de voir tout à l'heure là que tu avais gagné un 14 bornes.
Ouais, bah c'est vrai que j'aime bien aussi cette polyvalence. J'ai du mal à me trouver, donc c'est vrai que pour l'année à venir, je serai plus sur des formats un petit peu plus longs, mais ça m'empêche pas de m'aligner sur des formats un petit peu plus courts, donc comme tu l'as dit la semaine dernière sur 14 km. J'ai aussi fait des kilomètres verticaux cette année. J'ai fait les cross courts, cross longs, trail courts, donc oui, je touche vraiment à tout. Et puis je pense que c'est important aussi de garder un petit peu de vitesse pour pouvoir être performant sur du plus long.
Ah, c'est important ce mixte, d'avoir plusieurs cordes à son arc et puis d'avoir en tête de développer toutes ces capacités physiques différentes et puis peut-être aussi pour éviter la lassitude aussi de
l'entraînement. Pour essayer de casser cette routine. Quand on parle d'ultra, c'est pas uniquement des entraînements en lien avec de l'effort de longue durée. Il faut savoir être bon un petit peu partout, donc ça veut dire qu'on va toucher un petit peu au seuil, on va faire de l'intensité, on va faire du travail de côte, des sorties en endurance fondamentale où on va pas du tout taper dans les réserves. Donc c'est vrai que c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir cette vision un petit peu plus ouverte, et puis voilà, de toucher un petit peu à toutes les distances.
Et qu'est-ce que tu dirais de... tu vois, j'ai reçu sur le podcast, alors je suis désolé, j'ai plus son nom en tête, j'aurais dû réviser avant. Il a fait la Swiss Peak, donc 300 bornes,
ouais.
À 22 ans. Qu'est-ce que tu dirais? Tu trouves que c'est OK? C'est trop tôt?
Pour moi, non. Pour moi, il n'y a pas de limite. Après, forcément, le regard extérieur, moi, quand j'ai commencé à courir, et c'est vrai que j'étais déjà sur des formats un peu trop longs aux yeux des autres, donc forcément, il y avait des critiques, mais moi, je trouve que non. Si le corps réagit bien, s'il n'y a pas de blessure, si c'est fait intelligemment, non, il n'y a pas de souci là-dessus.
Ouais, ma question, c'est de savoir vraiment... Qu'est-ce que tu leur réponds en fait à ces gens quand ils te disent ça?
En soi, j'écoute, mais je vais dans leur sens en disant oui, c'est vrai que c'est pas forcément très bien pour le corps, mais moi non, ça paraît normal quoi. D'être sur du long, il n'y a pas de barrière. Si ton corps est apte à pouvoir courir sur des distances un petit peu plus longues. Il faut pas se brider, il faut y aller.
C'est un peu la tendance qu'on observe. Hein. C'est vrai que, pour aller dans l'extrême de ce qu'on disait il y a quelques années, où courir 2 marathons par an, c'était le max. Aujourd'hui, pour tous ceux qui aiment le long, c'est 2 marathons, c'est ce que tu peux faire en un mois.
Oui, c'est sûr. Et puis après, il faut savoir que c'est un sport aussi qui se démocratise assez vite depuis maintenant 2-3 ans. Donc forcément, il y a des nouvelles générations qui arrivent. Donc les anciennes générations ont forcément leur point de vue par rapport à ça. Et puis nous, on apporte aussi un petit peu petit zeste de fraîcheur, pour dire ça comme ça. Donc forcément, il peut y avoir des points de vue différents, mais c'est aussi grâce à ça qu'on peut faire évoluer ce sport. Et c'est pas parce qu'on a 20 ans qu'on n'a pas le droit de se lancer sur des distances un petit peu plus longues.
Non, c'est clair. Moi, je suis ultra favorable à ça. Et puis, le podcast, c'est vraiment tout l'esprit de ce podcast, de dire aux gens, osez, défiez-vous, bougez-vous, allez, même si tu te plantes, tu sauras au moins pourquoi tu t'es planté. Mais bon, faut y aller quand même tout en restant en bonne santé et puis y aller intelligemment, quoi.
Ouais, il faut savoir s'écouter. Et puis, si le corps répond OK, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il faut le faire intelligemment.
Alors justement, en parlant de le faire intelligemment, je crois savoir que toi, tu as fait le choix d'aller déménager en montagne. Donc, tu es originaire de Saint-Brieuc,
oui.
Qui a de belles falaises hein, pour la Bretagne. Il y a de jolis coins là-bas pour s'entraîner un petit peu au D+. C'est pas l'endroit le plus plat de la Bretagne. Pourquoi avoir fait le choix de se déplacer en montagne?
Alors, j'ai pas déménagé à la montagne, mais cette année j'étais sur Millau en fait pour mes études. Donc j'étais en licence GDOSSL, donc c'est tourisme sport nature, et donc j'avais un beau terrain de jeu avec les causses, avec la Puncho. Et en mars, donc je suis parti en stage dans les Alpes pendant 3 mois. Donc c'est là où j'ai pu pouvoir m'entraîner en alliant donc du coup sport et le côté professionnel. Et là, je suis de retour en Bretagne.
Ah, je croyais que tu avais déménagé.
J'ai pas encore déménagé dans les Alpes.
Ça te fait envie ?
Ça pourrait être une idée. Après, y vivre toute l'année, je pense pas, mais plus sur des phases de 3 mois.
Et je crois savoir aussi que t'es encadré, t'es accompagné par Christophe Mallardet. Ouais,
c'est ça. Bah, ça va faire tout juste un an que Christophe m'accompagne dans mon projet sportif.
Qu'est-ce que ça a changé pour toi, le fait de te faire accompagner par un coach et pas n'importe quel coach en plus?
Ah bah franchement, ça m'a aidé à passer un très gros cap, parce que c'est vrai qu'avant, je m'entraînais un petit peu, je dirais sans réflexion. Je faisais des semaines entre 130 et 150 km, donc c'est vrai qu'il n'y avait pas trop d'organisation. Ma séance, je la faisais une fois que je mettais mes chaussures, donc il n'y avait aucune réflexion par rapport à ça. Christophe, il m'a apporté beaucoup de sérénité, beaucoup de structure. Donc c'est vrai que c'est un gros plus. Puis voilà, Christophe, c'est un athlète et puis un entraîneur pour lequel j'ai beaucoup de respect. Et quand il m'a contacté pour pouvoir faire une collaboration ensemble, c'est vrai que ça m'a fait vraiment plaisir. Quoi. Je me suis dit bah c'est top d'avoir cette opportunité de pouvoir travailler avec un coach de ce niveau.
Ah, t'imagines, c'est le même coach que François Daen, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais.
La classe. Et il est breton, en plus.
Purée. Il est breton, en plus.
Il a tout pour plaire, ce Christophe. Bon, salut, Christophe. J'espère qu'il nous écoute, Christophe Daen. Ok, ouais, c'est clair que la différence entre s'entraîner seul et puis d'avoir quelqu'un qui a un regard extérieur et puis qui peut te conseiller sur la meilleure façon de t'entraîner, ça doit changer beaucoup de choses quand même dans ta façon de t'entraîner, de pas trop en faire aussi, de savoir observer des périodes de repos.
Exactement, parce que c'est vrai que moi, quand je m'entraînais tout seul, toute cette phase de repos, au final, je la respectais quasiment jamais. J'allais courir tous les jours. Donc forcément, il y avait une certaine fatigue qui pouvait s'instaurer. Et je l'ai ressenti parce qu'un an plus tard, j'ai eu une phase où j'avais plus de jus. Quoi. J'étais cuit, en fait.
Qu'est-ce que tu dis dans ces phases-là?
Et bah tu psychotes un petit peu, tu te sens pas bien, tu te dis mais c'est pas possible, tout va bien pendant un an et demi, et puis d'un coup t'as une grosse phase où plus rien ne va, donc forcément dans la tête c'est pas forcément facile. Tu vas aller te faire des séances de seuil par exemple, et tu tiens plus les chronos que t'arrivais à tenir il y a 2 mois auparavant, donc c'est vrai que c'est pas évident.
Ça doit faire drôle quand même quand tu vois t'es habitué à augmenter tes performances et que d'un coup... Comme ça, t'as une grosse baisse de régime, t'as pas mal de remises en question.
Ouais, après je me dis aussi que par rapport à ça, j'ai une prise de hauteur assez importante en me disant que ça fait aussi partie de l'apprentissage. C'est une prise d'expérience et des erreurs qu'on fait voilà, quand on est jeune, quand on débute. Et c'est des erreurs que je referai plus par la suite.
Ouais, tu dois te demander si à un moment, t'as eu des moments où... Ou tu vois, même si t'es au-delà de la performance ou du niveau qui baisse, mais c'est plus d'envie.
Alors l'envie, non, moi elle est toujours présente, l'envie. Surtout depuis que je travaille avec Christophe, puisque les plans sont toujours très variés, il arrive à casser la routine en proposant des plans d'entraînement qui changent quasiment toutes les semaines en fonction de mes sensations, de mes envies. Des courses que je prépare, donc non, il arrive vraiment à me faire découvrir de nouvelles choses en permanence. Donc le plaisir est forcément toujours présent.
Ouais, ça aussi, c'est vraiment l'intérêt aussi d'avoir un entraîneur qui arrive à te varier les séances. Tu fais l'entraînement croisé avec du vélo, de la natation, des choses comme ça ?
Alors j'ai commencé à mettre du vélo depuis maintenant 4 mois. Ouais.
Et l'hiver, t'arrives ?
Alors l'hiver, je sors le home trainer, du coup. Ah. Sinon, enfin, c'est vrai que moi, j'ai du mal. Tout ce qui est tapis de course, home trainer, donc travailler en intérieur, j'ai du mal. Donc l'hiver, ça m'arrive de sortir le VTT.
Ah oui.
J'aime bien être dans la boue, passer dans les rivières, passer un petit peu n'importe où. Et puis bon, ça ressemble aussi fortement au trail, donc c'est vrai que ça passe bien, quoi.
Je trouve ça vachement intéressant, le VTT, pour la lecture du terrain.
Ouais,
tu vois, t'apprends à, surtout en descente, à analyser le terrain hyper vite, en fait.
C'est vrai, oui.
J'aurais dû te le dire avant d'enregistrer, mais cette année, parce que là, tu vas être le premier épisode de l'année. Félicitations, bravo. Cette année, le podcast, il est soutenu par NAC. Et NAC, je leur envoie en fait toute la liste des invités que j'ai. Donc NAC, qui est une marque de nutrition sportive dirigée principalement vers l'ultra-endurance. Ça tombe bien parce que je crois que tu vas rejoindre la team NAC cette année.
Oui, bah c'est marrant que tu en parles parce que je comptais en parler sur les réseaux prochainement, donc la semaine qui arrive, donc c'est marrant que tu en parles.
Ouais. Alors comment s'est passée cette rencontre et cette collaboration ?
Alors c'est vrai que moi j'utilise NAC depuis maintenant, je dirais une bonne année. J'ai toujours eu un petit peu de mal à trouver une alimentation qui matche bien avec mes envies, ne pas avoir de soucis gastriques. Et c'est vrai que les petites gaufrettes et puis les bars, moi, ça passe toujours très bien, quoi.
Et est-ce que tu as... Moi, c'est surtout la poudre, le mélange.
Ouais, la poudre. Moi, c'est la poudre à la pastèque qui passe bien.
Alors j'avais fait l'erreur, tu vois, sur la TDS, de la surdosée,
okay.
et c'était devenu une espèce
de pâte,
ouais. C'était, ouais. Donc faites très attention à ça, parce que ça, enfin j'ai dû aller voir l'équipe de secours qui était en haut d'une côte, parce que c'est un moment où il était très très chaud, et quand il fait très chaud, en plus, faut sous-doser les boissons énergétiques, et j'avais dû vider ma poche et remplir d'eau claire pour pouvoir avoir un mélange qui était buvable, parce que
homogène.
Ouais, c'était... Faites très attention à ça quand vous mélangez les produits comme ça. Et puis surtout, quand tu pars après un ravito, tu goûtes pas tout de suite parce que tu as déjà bu. Puis je m'étais rendu compte de ça peut-être 2-3 km après un ravito. Et là, c'est le dilemme. Qu'est-ce que je fais ? Je fais demi-tour. Je continue. On verra bien si je trouve une rivière.
C'est là où c'est important de tester les produits aussi en amont à l'entraînement. Tu vois, moi, cette erreur, je l'ai faite il y a 3 semaines. Où j'ai rempli donc c'était pas sur une sortie à pied, c'était sur une sortie à vélo, où j'ai mis une dose de plus par rapport à ce qui était recommandé, et c'est là où je me suis rendu compte que ça faisait de la pâte, donc c'était pas buvable du tout en fait. Et donc maintenant je le sais, donc je ferai pas cette erreur en course.
Ah, c'est clair, ça c'est les petites erreurs comme ça qui peuvent te coûter très cher sur un trail. Ouais. Mais bon. Comme tu dis, on apprend de ses erreurs. Et puis là, tu vois, là, je m'en souviens encore 6 mois après. Et c'est clair que je ne referai jamais cette erreur. Non, c'est clair. Ok, très cool. Alors justement, pour continuer un petit peu sur la nutrition, tu disais tout début que toi, la nutrition, c'était tu faisais assez attention l'année, toute l'année.
Oui.
Comment tu fais pour faire attention ?
Eh bien, ça se fait naturellement. Essayer de manger varié, de varier les plaisirs, sans forcément se brider. Après, moi, je sais que tout ce qui est fast-food, ça va bien faire 4-5 ans que j'en ai pas mangé. Je préfère me manger un bon repas fait maison que d'aller dans des... manger un burger, quelque chose de gras, quoi.
Putain, pourtant, c'est bon quand même, une bonne pizza,
ouais, un bon burger... C'est bon, mais tu vois, c'est... Donc, par exemple, moi j'avais cette phase où je mangeais pas mal de... C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez gourmand. Le pain beurre salé, bien sûr.
Ah, bien sûr.
Le repas...
Non, c'est de la margarine.
Ouais. Ça, tu vois, j'ai réussi à stopper.
Le pain beurre ?
Ouais, le pain beurre.
Oh là là.
Parce que je me rendais compte qu'au final, bah, je prenais du poids, quoi. Je prenais du poids, et puis c'est des choses que j'avais du mal à éliminer. Et donc, en arrêtant le pain beurre, et bah, j'arrive à garder une ligne un petit peu plus stable.
Mais pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que c'est vrai que je fais aussi très attention à mon poids de forme. Et quand j'ai des petits écarts en fait par rapport à mon poids, et ben je me rends compte que les chronos sont complètement différents. Il peut avoir de, je serais moins performant au final si j'arrive pas à tenir cette ligne.
Et si tu t'en voudrais ?
Bah ouais, je m'en voudrais. C'est vrai que même là, tu vois, on parlait des fêtes de fin d'année. C'est vrai que moi, je me donne ces 2 jours pour pouvoir me faire plaisir, pour manger un petit peu. Bah, tout ce que j'aime au final, du chocolat, des noix de Saint-Jacques, voilà, c'est en se faisant plaisir. Mais là, hier soir, ouais, je me disais, mince, maintenant il faut faire le taf pour éliminer tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais bon, je pense que c'est psychologique.
Ah ouais, parce que quand tu t'entraînes, ça ressemble à quoi une semaine d'entraînement pour toi?
Une semaine d'entraînement, c'est entre 8h et 12h à pied, et puis on va rajouter entre 4 et 6 heures à vélo. Il y a forcément aussi un petit peu de renforcement musculaire à côté.
Putain la vache. Et ça se découpe comment à peu près hein? Tu fais du bi-quotidien, c'est
Ouais, ça peut être du bi-quotidien, donc une sortie par exemple de 45 minutes en endurance fondamentale le matin, avec du renforcement musculaire ou des étirements à la suite. Et puis l'après-midi, donc soit je vais faire une sortie à vélo de 2-3 heures, ou sinon faire une séance à pied. Donc ça peut être une séance en côte, ça peut être du seuil, ça peut être des intensités, voilà.
Mais tu vois, le petit excès, il est ultra vite éliminé, avec autant d'entraînement.
Ouais, je sais bien, mais moi je pense que c'est vraiment, comme je disais, c'est psychologique, hein, c'est dans la tête.
Ouais, c'est intéressant ça, ce côté optimisation de tout pour la recherche de la performance. Il y a d'autres trucs comme ça que tu optimises
Ouais, j'essaye de boire entre 2 et 3 litres d'eau. Moi, c'est peut-être aussi dans ma tête, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça me fait du bien. Et si j'arrive pas à avoir ce quota à la fin de la journée, et ben je me sens pas bien. Quoi.
Question sommeil, t'es. Aussi à essayer d'optimiser, de dormir juste le temps qu'il faut, tu fais comment?
Ouais, moi généralement il me faut entre 8 et 9 heures de sommeil. C'est vrai que forcément quand on se dépense beaucoup la journée, bah, le soir on est forcément fatigué un petit peu plus tôt, donc on n'a qu'une envie, c'est d'aller dormir. Après j'essaye de me forcer d'éteindre les écrans plus tôt aussi, pour pouvoir m'endormir plus vite. J'essaye de faire des exercices de respiration, d'auto-hypnose. C'est un sujet qui m'intéresse depuis quelques temps, donc j'essaye de mettre ça en place pour la suite.
Et est-ce que tu es comme ça pour tout? Parce que là, tu vois, tu nous parles de cette rigueur, de cette discipline que tu as dans ton entraînement pour la recherche de la performance, mais... est-ce que à l'école t'es comme ça aussi? Est-ce que dans tes relations avec les gens, tes amis, ta famille, c'est comme ça aussi ou
Bah c'est vrai que moi j'aime bien quand tout est bien planifié, quand tout est vraiment bien mis en ordre, que tu avoir le contrôle sur la situation, c'est ce dont j'ai besoin. Partir un peu sans savoir où je vais, là je suis un petit peu moins à l'aise.
Ça, faudrait que je t'emmène parce que moi j'ai le don pour me perdre quand je pars à l'aventure comme ça et je prépare jamais rien, tu vois. Par exemple cette année je suis allé à La Réunion et j'ai fait 60 bornes autour du Piton des Neiges.
Okay.
Je suis parti le lundi matin, je savais pas comment j'allais aller rejoindre le point de départ, je savais pas comment j'allais revenir, je connaissais pas la route, je savais pas où étaient les endroits où j'allais pouvoir acheter à manger. J'avais juste téléchargé, trouvé une trace GPX que j'ai mis dans ma montre et puis en avant. Ça, c'est le genre de truc que tu pourrais faire?
Ouais, ça pourrait se faire. Après, bah, Je suis quelqu'un d'organisé, mais je ne mets pas de pression non plus. Tu vois, j'aime bien quand tout est carré dans ma tête, mais ça m'arrive de faire les choses à la dernière minute. Mais la chose qui doit être faite, elle sera faite. Même si c'est 5 minutes avant. Par exemple, tu me parles de faire un tour autour du Piton des Neiges. Moi, je serais du genre, par exemple, le matin, me lever un petit peu plus tôt, regarder la trace et puis organiser la sortie vraiment en dernière minute.
Ouais, savoir où sont les points d'eau, savoir...
Voilà, c'est ça.
Ouais, quand même, quoi. Et savoir comment ouais. Tu vas revenir.
Voilà, ouais, surtout.
Ouais, parce que pour le coup, je suis revenu en stop.
Ah,
parce que je savais...
C'est sympa aussi. Ouais. C'était partie de l'aventure.
C'est ça, exactement. Non, c'était chouette. Surtout quand personne veut te prendre, se demander qui s'est staré à 3h du mat, en train de faire du stop. Ok, ouais, c'est vrai que dans le chaos, des fois, il se passe des trucs comme ça, des rencontres fabuleuses, et moi j'adore ce moment-là où
tu ne demandes rien et que tu te laisses porter par la vie, quoi.
C'est ça, exactement. Et puis en fait, t'as tellement de joie, en fait, quand tu trouves, tu vois, j'ai croisé une supérette à un moment sur ce parcours, mais c'est tellement le bonheur, quoi. Tu t'attends pas à avoir une supérette, ouais. Du coup, t'as l'impression que t'es dans une basse vie, quoi, tu vois. voilà. Moi j'aime bien ces moments-là et j'ai du mal quoi. Et bon bah ça c'est je pense une histoire de caractère aussi. Tu vois bon par exemple ce podcast on est aussi toute l'illustration, tu vois je prépare pas mes enregistrements parce que j'ai envie de me laisser porter par la conversation et puis et je sais que t'en as d'autres qui ont toute la structure, les questions qu'ils vont poser, etc. Ça c'est je pense une histoire de caractère. Mais les deux sont très cool hein.
Oui, bien sûr.
Ok, alors cette année tu as gagné. Alors, c'est pas l'Endurance Trail des Templiers, c'est l'Endurance Trail,
ouais,
c'est ça.
L'Endurance Trail,
je pensais que l'Endurance Trail, je suis jamais allé aux Templiers donc c'est une course que je connais pas bien.
Mais il faut que tu viennes l'année prochaine.
Bah ouais, mais ça fait 2 ans de suite que je vais à La Réunion.
Ah oui, c'est vrai que c'est sur le même week-end.
Mais ouais, du coup, cette année je suis en train de me demander si je vais aller à La Réunion ou pas. Pour pouvoir aller au Templier.
Ça pourrait être chouette. Ouais.
Alors, du coup, l'endurance, je pensais que c'était le 78, mais ok, c'est le 100. Raconte-moi cette course que tu as gagnée. Incroyable.
Alors, c'est vrai que moi, mon histoire avec les Templiers, avec Millau en général, elle a débuté il y a un an. Donc déjà, quand je suis arrivé sur Millau pour débuter mes études en licence, où j'ai rencontré du coup Kevin Bertrand, qui est le fils de Gilles. C'était en lien avec un projet tutoré. Et puis voilà, il m'a proposé de courir sur la course de mon choix, donc que j'avais pas du tout préparé. Et du coup, j'avais fait le choix de m'engager sur l'intégrale des courses. Donc c'est le 68, course que j'ai gagnée. Et donc moi, dans ma tête, je voulais faire cette course pour pouvoir préparer le 80 l'année suivante. Et donc c'est là où un petit peu, c'était le déclic, on peut le dire. Et donc, après, dans ma tête, je me lançais pour pouvoir préparer le 80 km du coup l'année suivante, donc cette année. Sauf que je savais qu'il y avait un golden ticket pour la Western sur le 110. Et la Western, c'est vraiment une course qui m'attire. Les États-Unis, en général, c'est un territoire qui me fascine. Et donc, je me suis pris au jeu et je me suis dit, non, au lieu de faire le 80, je vais me lancer sur le 110. Puisque c'était aussi dans mon optique de progression, j'ai vu avec Christophe en lui disant que voilà, sur une échelle de 2 à 3 ans, j'aimerais me lancer sur des formats un petit peu plus longs, donc sur des 100 miles. Donc c'était le moment de passer le pas. Et puis voilà, puisque j'étais sur Millau toute l'année, ça me permettait aussi de préparer cette course. Donc voilà, le circuit, je le connaissais vraiment. Même là, si tu me demandes qu'est-ce qu'il y a au kilomètre 60, je pourrais te le dire en fermant les yeux, quoi. Tellement je l'ai fait ce parcours, tellement j'ai mis du temps à préparer cette course. Donc oui, c'est beaucoup de préparation. Et donc voilà, j'étais vraiment. C'est pas une surprise de l'avoir gagné, mais je m'attendais pas. Je m'y attendais pas au final. Ouais.
Alors détaille ça, c'était pas une surprise, c'est-à-dire ?
C'était pas une surprise. Dans le sens où j'étais vraiment serein par rapport à ma préparation, tout était vraiment bien amené. Avec Christophe, on a vraiment préparé ça de manière très sérieuse sur un mois et demi où je suis retourné sur Millau du coup pour vraiment préparer la course. Et même quand je m'entraînais sur les sentiers, je me disais, je me sentais tellement bien, la forme était tellement bonne, que je me disais que cette année, il y avait moyen de faire quelque chose d'intéressant.
Pourtant, le plateau, il est souvent ultra relevé. Enfin, on a des grands noms quand même qui participent à cette course. Comment toi tu vis d'être aligné et faire la bataille avec ces athlètes qui ont tous un palmarès de ouf?
Bah, de ça, c'est pas une information que je vais regarder en premier. J'ai un peu des œillères par rapport à ça. Je vais mettre une pression de mon côté, mais toute cette pression en lien avec le plateau proposé, c'est pas forcément quelque chose qui peut me faire peur. Donc, je me laisse porter, je reste dans le groupe qui, je sais, jouera aux avant-postes, et puis ensuite, bah, je vois comment ça se profile au fil des kilomètres.
Parce que là, c'est Gwendal Moisan qui termine deuxième, qui est breton aussi.
Qui est breton, oui, exact.
Préparé par Christophe, lui aussi.
Ah, oui, c'est vrai.
Putain, on a représenté sur ce coup-là.
Ouais. Ouais, parce que j'ai passé aussi une bonne partie de course avec Gwendal que je connaissais pas particulièrement, donc on a pris le temps d'échanger, et puis c'est vrai que c'est un super gars, très humble, franchement, j'ai adoré.
Un très très chouette type, Gwendal ouais. Moisan. J'aimerais bien le recevoir aussi sur le podcast. Ouais. Gwendal, si tu nous écoutes, peut-être que tu prendras ce micro un jour. Est-ce que tu as eu des moments de doute, des moments où tu t'es dit ah, ça va pas le faire, là je suis pas bien, parce que sur 110 km, il s'en passe des choses.
C'est vrai qu'il s'en passe des choses, et puis toujours avant les courses avec Christophe, on s'appelle pour voir comment sont les sensations. Il me donne quelques conseils, me disant par exemple. Bah sur les 40 premiers, il faut que tu mettes le frein à main, faut pas s'enflammer. Et c'est vrai que moi, enfin, dès le départ, j'ai qu'une envie, c'est de partir fort. J'ai vraiment des jambes de feu au départ. Et au bout de la première bosse, en haut de Carbassas, j'étais déjà deuxième. Et c'est là où je me suis dit, ça va être long. Et au 30e, je commençais déjà à cramper, parce que c'est vrai qu'il faisait lourd. Et pourtant, je me suis hydraté. Hein, tout ce qui est hydratation et nutrition, je fais très attention. Et ouais, arrivé au 30e, je commençais déjà à douter, quoi. Et c'est là où tu te dis, bah ouais, ça va être long. Et puis au final, j'ai eu une petite phase de, allez, entre 5 et 10 km, un petit peu de vide. Moi, généralement, quand j'ai des petites pensées un petit peu négatives, j'arrive toujours à débrancher le cerveau, et puis ça revient naturellement. Et puis ouais, j'ai fait une fin de course, je dirais parfaite, où j'ai pas eu de soucis, où j'étais vraiment maître de mon effort. Je pouvais accélérer quand je voulais, si je voulais en remettre un petit peu, quand ça grimpait, il n'y avait pas de soucis, ça répondait bien. Et puis, même à l'arrivée, hein, c'est ce que je disais, je suis arrivé quand même assez frais, j'aurais pu continuer encore 20 km sur ce rythme.
Putain, c'est dingue. Parce que tu as terminé quand même avec une 8,44, je suis sur le site en même temps, 8,44 km/h sur 105 km, 4,500 de D+. C'est ouf. Je sais pas si en fait en kilomètres effort, ça fait 150 km. Ouais. Donc 150 km à 8,44 km/h, c'est ouf. Ouais. Le terrain ouais. est technique là-bas, c'est comment?
Alors c'est technique sur les premières portions. Le départ est assez roulant. Puis à partir du 33e, on arrive au balcon des vertiges, il me semble. Donc c'est une sorte de vase, au final ils appellent ça la petite réunion, où t'as pas mal de racines, c'était un petit peu humide, donc là faut faire attention. Là forcément on n'avance pas très vite, mais sur la fin de course, ouais, c'est un petit peu plus roulant. Une fois que t'arrives sur les côtes, t'as des belles portions où tu peux dérouler. Après c'est plus les grimpettes hein, qui sont vraiment casse-pattes, qui sont raides. Surtout la dernière, tu descends en masse bio, t'arrives dans la vallée, puis il faut remonter le cad, et c'est vrai que le cad fait quand même mal aux pattes.
Et tu vois, t'as vu, parce que quand je dis qu'il y avait des grands noms quand même sur les Templiers, il y avait Jim Walmsley qui était là, qui était pas engagé sur la même...
Il était sur le 80, oui.
Voilà, sur la même course, mais bon, voilà, il était quand même là.
Et puis sur le 110, on avait Alban Berson, qui est aussi dans la team Altra, qui fait 12e, il me semble, à l'UTMB. Donc c'est vraiment lui qui me faisait, entre guillemets, le plus peur, surtout sur la partie finale, où je savais qu'il pouvait terminer très fort et puis revenir vite sur les parties roulantes. Et au final, j'ai réussi à résister au bras de fer et ça l'a fait. Mais oui, il y avait un très beau plateau cette année.
Ouais, il termine troisième. Donc, quand même, belle perf.
Et puis c'est vrai qu'on parle souvent d'une bataille physique, mais c'est aussi très psychologique en ultra. Il peut avoir 2-3 minutes d'écart, mais au final, ça représente rien du tout. Cette avance, elle peut être diminuée comme neige au soleil dans une montée ou dans une descente, ça peut aller très vite, quoi.
Ouais, il y a un coup de moins bien, t'as plus envie.
Ouais, tu peux avoir une crampe, t'arrives pas à faire passer la crampe, tu peux être en hypo, t'as plus rien pour t'alimenter. C'est vrai que, ouais, tout peut. C'est pas parce que tu planifies tout en avance que forcément ça se passera comme tu l'avais prédit, quoi.
Heureusement d'ailleurs.
Heureusement. C'est ce qui fait aussi tout le charme de ce sport.
C'est clair. Comme j'ai déjà dit dans un podcast, je sais plus lequel, c'est comme un business plan, le seul truc qui est vrai, c'est la date.
Ouais.
L'ultra, c'est ça. Tu prévois plein de trucs, mais au final, si, il y a Antoine Guillon qui arrive à respecter ses temps de passage à la minute près. Mais...
Non, parce que c'est vrai qu'avec Christophe, il m'avait dit que la course commençait à la Roque Sainte-Marguerite, donc au 60e. Il m'avait dit jusqu'à la Roque, tu t'énerves pas, quoi, tu restes tranquille. Et moi, déjà, au bout de la première grimpette, au bout de 10 bornes, j'étais déjà aux avant-postes. Donc c'est là où tu te dis, bah, est-ce que j'ai été bon de faire ça? Est-ce que j'ai été intelligent? Ou est-ce que j'aurais dû... Au final, on ne le saura jamais. Peut-être que j'aurais pu terminer plus fort en partant un petit peu moins vite, faire un meilleur chrono, je ne sais pas. Absolument. Mais voilà, moi, c'est vrai que je cours beaucoup aux sensations. Même si sur le plan, on m'avait dit de... Enfin, moi, tout ce qui est indicateur, enfin, par rapport au cœur, par rapport à l'allure, ça, j'en fais très peu attention. C'est vraiment aux sensations que je cours.
Ça, c'est intéressant, ça, parce que tu vois, tout à l'heure, je disais que tu optimisais un petit peu tout. Et là, justement, pour le coup, les gens qui optimisent tout, souvent, ils sont là, justement, moi, je les appelle les ingénieurs du trail. Ceux qui regardent toutes les données cardiaques, les vitesses, toutes ces choses-là. Et là, pour le coup, non.
C'est vrai que j'ai un œil dessus, mais je ne vais pas forcément me passer du temps à analyser toutes ces données. Mais j'y fais quand même attention.
Ouais, ok, quand même, ouais.
Ouais.
D'accord. Ok, et alors du coup, le fait d'être aligné comme ça sur une course avec tous ces athlètes élites, et puis de faire partie de ceux qui ont gagné une des courses des Templiers, qu'est-ce que ça a changé pour toi?
De gagner l'Endurance Trail, tu veux dire?
Ouais.
Ben, c'est vrai que déjà, au côté médiatique, ça, je m'y attendais pas du tout. Moi, mon téléphone, en gros, il était resté à l'appartement. Donc, c'est vraiment le soir en rentrant que je me suis rendu compte, mais waouh, c'est quand même fou, quoi. Sur les réseaux, j'avais gagné quasiment 1000 abonnés. J'étais interviewé par Renix. Renix qui a fait une superbe vidéo, donc en me mettant en avant, et tout ça, enfin tous les messages, ça fait limite peur au final.
Pourquoi?
Bah, c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime bien rester un petit peu dans l'anonymat, rester un petit peu de côté, et toute cette lumière qui arrive un petit peu d'un coup, sans prévenir, sans y être préparé, c'est vrai que ça fait un petit peu peur.
Tu vois, ça fait... Tu vois, comme je te disais, j'avais remarqué tes publications déjà il y a longtemps, hein, parce que bon, comme on est tous les deux en Bretagne, ouais. Tu partages sur le groupe Trail Running en Bretagne, et puis bah, tu vois vite en fait les trucs assez impressionnants. Et puis quand j'ai commencé ce podcast-là, l'idée c'était aussi de faire parler de la Bretagne et de ces athlètes bretons qui performent, et ça faisait des mois, je me disais, ah, Théo, faut qu'on prenne le temps d'enregistrer ensemble, si ça te disait. Et puis c'est qu'après cette course-là que il y a deux personnes, des gens qui sont venus me dire, ah, tu devrais recevoir Théo, etc. Donc bon, j'avais déjà l'idée en tête, mais c'est ça qui a déclenché en fait. Donc je comprends en fait cette médiatisation supplémentaire que tu as dû avoir, mais c'est chouette aussi, ça a dû te faire avoir quelques partenaires peut-être qui t'ont fait confiance suite à cette victoire.
Alors j'avais déjà deux partenaires avant cette victoire, donc j'avais Ultra Running, qui me suit sur le côté chaussures. Et puis j'avais aussi Bleu Mercure, donc qui est un agent immobilier d'entreprise basé en Bretagne, à Plérin. Mais oui, c'est vrai que j'ai été contacté par de très belles marques. Donc forcément, bah, quand tu es jeune et que tu es contacté par de belles marques qui rayonnent au niveau mondial, bah, tu as envie de signer de suite. Mais c'est là où tu te raisonnes et tu dis non, non, Théo, il faut que tu prennes le temps, que tu ne brûles pas les étapes. Tu... Voilà, il faut faire le bon choix. Ça, c'est des propositions qui peuvent arriver une fois dans ta vie. Donc tu prends le temps et puis, voilà, tu aviseras la fin de semaine. Une fois que toute la pression sera retombée, que tu seras posé, voilà, sans se prendre la tête par rapport à ça.
Et tu vois, les athlètes, tu disais que tu étais dans le foot avant, enfin, les bons joueurs de foot, très bons joueurs de foot, ils ont des agents qui gèrent tout ça, toute la partie média, partenariat, tout ça. Ces gens-là gèrent ça pour eux. Dans le trail, il n'y a pas suffisamment d'argent encore pour que les athlètes élites aient ça. Et c'est un truc qui est très compliqué, en fait, parce que bien souvent, on n'est pas formé, en fait, à ça, à gérer cette. Cet aspect de la professionnalisation de son activité sportive, tu te fais un petit peu entourer ou tu y vas plutôt à l'instinct? Comment tu fais?
Bah, c'est vrai que là, j'ai intégré une fondation il y a maintenant un mois. Donc, une fondation qui s'appelle Respect. Où, voilà, le but, c'est vraiment de montrer que grâce au sport, on peut aussi mettre en avant des causes, que ce soit en lien avec l'environnement. Voilà, différentes causes. On a différents athlètes aussi dans cette fondation, donc ça permet aussi de pouvoir mettre en avant aussi tout ce côté partage, ce côté humain. Et on a un accompagnement donc par rapport au réseau, par rapport à la recherche de partenaires. Donc c'est vrai que ça aide beaucoup. Et puis sinon, avant d'intégrer cette fondation, j'avais aussi ma famille qui était là pour m'aider à faire les bons choix, à garder les pieds sur terre aussi par rapport à tout ce qui est en lien avec les réseaux. Voilà.
C'est important, ça, de garder ce socle de gens qui étaient déjà là avant que tout ça arrive, et puis de se dire je peux compter sur eux pour me ramener sur terre si jamais je commence à m'emballer. Ouais, c'est important de garder ce socle.
Ouais, puis voilà, c'est ce que je me dis, c'est pas parce que j'ai gagné une belle course que le monde doit s'arrêter de tourner. Il faut garder les pieds sur terre, rester humble par rapport à ça, et puis c'est que le début. J'ai seulement 22 ans, ça j'en suis conscient, et que des victoires, il y en aura d'autres, ou pas, et que voilà, il faut prendre les choses comme elles viennent, sans se prendre la tête.
Je te trouve en tout cas très mature par rapport à tous ces sujets-là, et je pense qu'à 22 ans, ça, j'aurais pas eu cette maturité-là, honnêtement. Donc je trouve ça très cool, bravo pour ça.
C'est un plaisir, merci.
Vraiment. Western Tate, du coup, tu as eu ton golden ticket?
Non, du coup il y a eu un petit retournement de situation à un mois de la course où les Templiers, en fait, ils ont perdu leur partenariat. Enfin, j'ai pas trop suivi, mais le ticket n'était plus mis en jeu, donc forcément un petit peu déçu. Mais bon, je me dis que bah, ça sera pour une prochaine fois. Et puis ça me permettra de faire aussi de belles courses en 2023, parce que forcément, si tu gagnes le ticket pour la Western, il faut quasiment axer toute sa saison sur cette course. Que là, ça me laisse un petit peu plus de liberté, puisque là, je suis encore en phase de découverte du monde de l'ultra, donc je me dis qu'au final, c'est un mal pour un bien.
Ouais, ok. Ouais, c'est Beñat Marmisol aussi qui y va oui. L'année prochaine. Et,
j'ai mis ça, ouais.
Ouais, il m'a dit ça la semaine dernière. J'ai dit putain, foiré quoi. c'est une des courses aussi qui.
C'est le Graal, hein, c'est une course qui fait rêver. T'as tous les meilleurs. C'est à faire au moins une fois dans sa vie, je pense.
C'est pas l'UTMB qui a tous les meilleurs?
Oh. Ça se voit.
Et t'as toujours envie cette course à l'UTMB?
Eh bien, l'UTMB, c'est une course que j'ai cochée, donc du coup, sur les deux années à venir. L'année prochaine, je fais la TDS. Pour découvrir, ça me laissera le temps de faire aussi un premier repérage. Et puis en 2024, pourquoi pas se lancer sur le Graal, quoi, sur le 100 miles.
Alors, tu vois, la TDS, tout le monde dit qu'elle est plus technique que l'UTMB, et du coup, tu t'attends à un truc, un chantier, quoi. Moi, j'ai été agréablement surpris parce que, bon, mis à part deux trois passages où c'est un petit peu
Technique,
bon, ça va quoi. Il y a beaucoup, ouais, beaucoup de portions où c'est courable. Bon, quand t'as encore les cannes, hein, mais évidemment, mais en termes de technicité, je trouve que c'est pas dingue. Et, après, sur l'UTMB, c'est sûr que ça l'est encore moins, quoi. Donc je pense que c'est vraiment à mettre, enfin, tu vois, ce côté, tout le monde dit, ouais, la TDS, c'est technique, en fait, c'est juste un peu plus technique que l'UTMB qu'il l'est pas du, ouais, tout, quoi.
Après, moi, par rapport au sentier, c'est une course que j'ai jamais repérée. J'y suis toujours allé en tant que spectateur. Donc, déjà, en tant que spectateur, tu vibres très fort. T'as des frissons quand tu vois les arrivées, et puis même l'ambiance sur la zone de départ. Donc là, voilà, ça sera vraiment une nouvelle découverte. Je vais prendre le temps de bien reconnaître le parcours. Et puis voilà, on va faire ça comme il faut.
Et tu vois, il y a un aspect sur... alors, moi, je suis pas du tout dans la performance. Enfin, si, dans ma performance à mon niveau, mais pour chercher, enfin, donner le meilleur de moi-même. Mais est-ce que toi, tu es aussi du style à te dire... moi, j'ai fait un calcul, tu vois, de me dire, bah, des ultras, je peux en faire aller deux par an raisonnablement, tu vois, en les préparant correctement. Et si je fais ce sport jusqu'à 60 ans, bah, ça veut dire qu'il m'en reste encore 50, tu vois, ultra à faire, parce que j'ai 35 ans. Du coup, il faut bien les choisir, tu vois. D'aller tous les ans sur une course et puis faire tout le temps la même, je trouve ça un peu dommage dans l'esprit de la découverte, etc. Est-ce que toi t'es plutôt dans cet esprit là aussi, ou tu vas essayer d'aller donner encore mieux est-ce que tu retourneras par exemple sur l'endurance trail pour faire encore une meilleure performance que ce que t'as fait?
Alors, sur l'endurance trail, peut-être pas maintenant. Parce que bah, c'est vrai que, comme tu le disais, j'ai pas forcément envie de refaire la même course tous les ans. Donc déjà sur le 80 km l'année prochaine, donc une distance différente. Mais voilà, moi, ce que j'aime aussi avec le trail, c'est que ça permet aussi de pouvoir voyager, de pouvoir découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles populations. Là, par exemple, tu vois, je pars en Croatie début avril faire le 110 km d'Istria. Donc la Croatie, c'est un pays que j'ai jamais fait. Donc le fait de pouvoir partir, voilà, deux semaines avant, ça permet aussi de pouvoir prendre le temps de se balader, de reconnaître le parcours. Et voilà, c'est aussi comme ça que je vois un peu comment je m'organise, comment j'organise mon planning tous les ans.
Mais alors, justement, tu vois, avec toute cette quantité de courses, nouvelles courses qu'il y a même chaque année, comment tu fais, toi, pour les choisir? C'est quoi ta méthode pour faire ton planning de l'année?
Bah, c'est vrai que l'année dernière, j'avais pas trop de limites. Moi, dès que tu me proposais un dossard, j'avais envie d'accepter de suite. Là, maintenant, je suis un petit peu plus raisonné. Donc là, je me bride à deux ultras dans l'année. Entre deux et trois, allez. Une marge, ouais. Une petite marge de trois, quand même.
Donc là, si je te propose de venir au Grand Raid du Finistère, tu me diras non, quoi.
Le planning est fait, mais il faut pas trop me chauffer parce que je peux dire oui, quoi. Après, voilà, il faut en parler avec le coach, regarder aussi par rapport au planning. Un 100 miles, voilà, ça demande quand même de la une bonne préparation. Il faut arriver avec de la fraîcheur. Donc voilà, si j'ai une course importante deux semaines après, par exemple, tu vois, je pourrais pas accepter. Le Théo d'il y a un an, il aurait accepté, mais le Théo de maintenant, il est un petit peu plus raisonné, donc il prendra un petit peu plus le temps d'y réfléchir, quoi.
Ah, c'est toujours ce fameux dilemme, la folie vs la raison.
Ah, voilà, c'est ça.
Il va me détester, Christophe, à force que je demande à tous ses athlètes de venir. Putain, mais il me saoule, lui, là-bas, dans le Finistère.
Non, mais c'est vrai que c'est une course aussi qui m'attire et qui sera forcément sur l'un de mes programmes d'ici 2-3 ans, dans les années à venir.
Ah, tu vois, j'ai une réunion demain avec les acteurs de l'environnement pour savoir si comment est-ce que ça va pouvoir s'organiser l'année prochaine. Donc,
ah oui.
Ouais, ouais, c'est ultra compliqué. Ce sera jamais un UTMB, tu vois, avec ou même un ultramarin avec 9000 participants. Oui. C'est pas possible. Donc, ça fera peut-être une en mode à l'américaine, tu sais, en mode hard rock avec 200 participants.
Ouais, avec un tirage au sort.
Qu'il faut attendre 7 ans avant d'être pris. Peut-être. Mais mythique, ça peut développer un truc mythique, tu vois, un truc.
Ouais, bah c'est vrai. Ouais. C'est vrai.
De développer la rareté de cette course. Ok, trop cool. Est-ce que justement, à part la western, toi, il y a, tu vois, un truc que tu te dis, moi, avant d'avoir passé le cap de la retraite sportive, il faut que je l'ai gagné.
Alors, c'est pas forcément des courses, mais ce serait plus des objectifs de FKT, donc de record sur un GR, sur une trace. Donc, celle qui est vraiment au haut de ma liste, c'est sur le GR34, forcément.
Évidemment.
Et puis, ouais, découvrir aussi le GR20. Je connais très bien la partie sud, mais pouvoir le faire dans son intégralité, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser avant la retraite ou après la retraite. En mode rando, il n'y a pas de souci.
Et alors, justement, tu vois, le GR34, donc plus de 2000 bornes. Là, comme ça, tout de suite, comment tu t'y prendrais pour aller taper un chrono dessus?
Je pense qu'il faut prendre le temps, ça se prépare pas en 2 mois, il faut sûrement une bonne année pour pouvoir vraiment reconnaître tous les tronçons. Après oui, ça se prépare, c'est sûr. Je sais qu'il y a, donc c'est Jérémy qui détient le record, donc voilà, le trail c'est aussi ça, c'est le partage. Donc si lui est prêt à pouvoir en discuter, à me parler de tronçons un petit peu plus techniques par rapport à la récupération, comment il s'est organisé, par rapport à la nutrition. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Et pas forcément y aller tête baissée en étant tout seul dans mon coin. C'est, pour moi, de toute façon, la tentative d'un record, c'est une aventure et ça doit se passer à plusieurs. Et pas uniquement l'athlète.
Ouais, tu vois, je recevais Sonia Poutrel qui a fait le GR223, donc en Normandie, okay. Et qui disait que justement ce qu'elle avait adoré, c'était de partager tous ces moments avec ces gens qui l'ont accompagné, qui l'ont aidé à accomplir cette aventure, et puis des gens qui étaient pas forcément connaisseurs de la pratique du trail et qui ont découvert son monde un peu, et c'est ça qu'elle retient de cette aventure au-delà de la performance sportive qui... tu l'oublies en fait, mais tous les moments partagés avec les gens et ces souvenirs que tu crées en faisant ces records, c'est ce que tu gardes. Et c'est ça qui est chouette quand tu vas faire un off. Mais c'est clair, c'est aussi un truc que j'ai envie de faire. Ma femme m'a juste dit d'attendre que les enfants soient tous les deux à l'école. Ouais. Et puis go à l'aventure. Mais bon, faut avoir un mois devant toi.
Mais voilà, c'est ça.
C'est pas évident, ouais. Du coup, toi, c'est la suite là, l'année. Donc, tu nous as dit la Croatie.
Alors d'abord, ça va débuter par le trail du Glazig sur le 60 km pour pouvoir remettre un petit peu de vitesse. Ensuite, il y aura donc le 110 km en Croatie, à Istria. Ensuite, il y aura le 60 km de Garlédan. Ensuite, il y aura sûrement un stage en montagne pour préparer la TDS. Ensuite, il y aura le 80 km des Templiers. Alors normalement, ensuite, après les Templiers, c'est fin de saison, mais il y a une course en Afrique du Sud, donc à Cape Town, qui me fait un petit peu du pied, donc à voir, pourquoi pas, terminer l'année sur le petit format ou sur le long. Mais ça, c'est encore en réflexion, à voir avec le coach.
Ok, putain, ça fait un beau planning, ça.
Ouais, ça fait un bon petit programme.
Mmh. Ouais. Ouais, avec deux courses du Challenge West Ride Tour.
Ouais, ça.
C'est un challenge que tu as déjà fait ?
Alors, j'ai pas dans son intégralité, mais j'ai déjà fait certaines courses, ouais.
Mmh. Ouais, t'as jamais fait les 4 courses qui te classent pour le challenge?
Non, non, non. Mmh.
Ce serait peut-être une bonne idée pour avoir un petit ticket pour la Réunion.
Une année. Parce que la Réunion, c'est forcément une course aussi qui me donne envie. Moi, je l'avais coché pour 2024. Donc, à voir comment se passe déjà la saison 2023. Si le corps réagit bien sur du plus long, et puis ensuite on avisera pour la suite.
Tu vois, la Réunion, la Diagonale, c'est la seule course qui me fait peur.
Ah ouais, c'est vrai.
Ouais, ouais. Tu vois, autant je me dis je pourrais aller m'engager sur un UTMB, même sur des courses beaucoup plus techniques, enfin du moins de réputation, tu vois, des je l'ai plus en tête là, dans, à Beldon, là, à côté de Grenoble.
Intégrale de.
Aide-moi.
Échappée belle.
Voilà, merci. Ouais. L'échappée belle, tout ça. Et en fait, alors c'est peut-être parce que j'y suis allé 2 ans de suite et puis que j'ai vu les portions, mais.
Ah non, mais je vais pas te mentir et te faire peur, mais c'est un chantier. Hein. J'ai fait la traversée nord cette année. Tu manges du caillou et pourtant, moi, j'aime bien les circuits, les tracés difficiles, mais là, j'ai été traumatisé pendant un mois après la course, quoi. J'avais plus envie de sortir courir dans du dur, quoi. J'avais qu'une envie, c'était rentrer en Bretagne, faire un petit peu de GR et puis souffler. Parce que là, ouais, sur la traversée nord, les 30 premiers kilomètres, alors déjà, il faisait froid, il neigeait. T'as les pieds qui partent dans tous les sens, t'as même pas le temps de poser ta foulée, que non, c'est un calvaire. Mais bon, il en faut aussi des courses comme ça. Qu'au final, ça reste une belle aventure. Ça a été dur pendant 30 km, et puis bah, les 50 prochains, ça a été, puisque c'était un petit peu plus roulant. Et puis voilà, on s'y fait.
Mais tu vois, j'arrive pas à comprendre, en fait... comment est-ce qu'ils arrivent au bout, tous ceux qui mettent plus de 60 heures là, à terminer, c'est un truc j'arrive pas en fait à comprendre et il faudrait peut-être que j'en reçoive sur le podcast pour qu'il m'explique mais plus en détail mais où est-ce à quel moment il est le plaisir parce que tu vois l'état de souffrance dans lequel arrivent les derniers. J'ai shifté un peu là-dessus. Il y a un moment où je me disais, ouais, mais bon, faut persévérer, etc. Mais en fait, jusqu'où tu vas, quoi. Enfin, à quel moment tu te dis, bah non, en fait, là, je suis juste en train de me détruire. Parce que sur la diagonale, l'année dernière, faut quand même savoir qu'il y a quelqu'un qui a été au bout, du bout, du bout, du bout, qui a fini, il a été transplanté, il a eu une transplantation de foie, de rein. Ah oui, il a fini, enfin, tu vois, moi, je pense qu'il vaut mieux aller augmenter progressivement les distances, augmenter en performance et puis après prendre plus de plaisir et être à l'aise sur les sentiers plutôt que d'aller se mettre dans des états comme ça. Et après, pour ça qui me fait peur, en fait, voir ces gens qui arrivent en souffrance, j'ai pas envie d'être comme ça.
Après, c'est une vision différente. Tu vois, même nous qui pouvons courir un petit peu plus vite, on arrive quand même à se mettre dans des états, on est vraiment à la limite. Donc, t'en as, ils vont viser l'aspect... l'aspect chrono, d'autres c'est plus l'aspect plaisir, d'autres c'est plus l'aspect partage avec un copain, avec la famille. Donc ouais, c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui est plus dans le dernier paquet du peloton, quoi. Après plus de 25 heures sur les sentiers.
Mais tu vois, le lendemain de la diagonale, tous les athlètes élites qui sont là sur le stade de la Redoute, sont là en train de danser sur le podium, sur les strades, là, quand... tu sais, ils ont l'air frais, ils ont l'air bien, ils ont l'air heureux. Je suis pas sûr que les derniers ils soient capables d'aligner 2 pas correctement tu vois, le lendemain. Enfin bref, ouais. En fait, c'est plus ça qui me fait envie d'arriver en étant capable de courir encore. Et, ouais. Bon, c'est un vaste sujet, un vaste débat. La recherche du pourquoi t'es là, sa raison profonde. T'arrives à savoir, toi, d'ailleurs, pourquoi ta raison profonde, pourquoi tu fais tout ça?
Je pense que c'est une question qu'on me pose souvent et j'ai pas la réponse parce que c'est surtout un plaisir, c'est un plaisir profond. Hein, je me sens bien en fait quand je cours. Je peux vraiment aller à la limite, découvrir mes limites. Découvrir mon corps, savoir jusqu'où je peux aller. J'ai pas encore atteint cette limite, mais non, je prends vraiment du plaisir à être en extérieur, à passer du bon temps sur les sentiers, à longer le côtier, à partager aussi quand on me parle sur les courses, à mettre un dossard. Donc ouais, non, c'est vraiment un tout au final. Et j'ai pas une réponse claire et précise.
Ça te fait envie des formats ultra longs, type Tour des Glaciers, choses comme ça?
Pour le moment, non, pas forcément. Mais je pense que ça viendra. Quand j'aurai fait le tour des 100 miles, des défis, ouais, pourquoi pas.
Parce que tu vois, je recevais Frédéric Delanouvelle qui a fait le marathon des sables avec sa fille qui a 16 ans.
D'accord, ah oui.
Tu vois, c'est admirable, hein, 16 ans, moi j'avais détesté la course à pied. Je trouve ça dingue quoi, d'avoir la force mentale d'aller faire ça, et la force physique aussi. Mais je me dis, en fait, il y a forcément la question, une fois que tu as fait ça à 16 ans, qu'est-ce que tu fais à 30, quoi? Tu fais 4 fois le tour du monde, enfin, c'est quoi le défi, quoi?
Ouais, après, enfin, ça reste du partage. Tu passes du bon temps avec ton père, avec... Là, c'est plus la notion de partage, je pense.
Ouais, c'est clair, c'est ça. Hein. Ouais. Mais tu vois, si tu veux partir sur qu'est-ce que je peux faire de plus, tu sais, parce que t'as toujours ces gens-là qui vont chercher à faire plus, ouais. plus, enfin, tu vois. Et si tu es comme ça, je me dis, c'est quoi ton défi si t'as déjà fait ça à 16 ans? Enfin, je trouve ça dingue, quoi. Mais c'est admirable, hein, je suis admiratif hein, de ces gens qui arrivent à faire ça. Ok, super Théo. Bah écoute, je suis très content d'en avoir su bien plus sur tous ces aspects de ta personnalité, de ton parcours aussi. Et puis, on arrive déjà à plus d'une heure. Chaque fois, on se dit qu'est-ce que je vais pouvoir raconter pendant une heure. Et puis au final, tu ouvres les yeux et puis déjà 55 minutes.
Et sans préparer en plus. Hein.
Et tu vois,
ça sent bien comme on disait au départ.
Ça sert à rien.
Ouais, ça sert à rien, oui.
Tu sais, l'esprit café trailer. Hein. L'esprit café trailer, tu te rends compte dans un café, tu discutes de trail.
Ouais, c'est clair. Voilà.
Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter à notre échange?
Je pourrais parler de mon premier beau souvenir sur mon premier ultra au Portugal sur la Transpeneda Jerez. Donc c'était la première fois que je faisais une course aussi longue, donc 110 km. Départ 23h, il faisait 28 degrés déjà, donc très chaud. 30 minutes avant le départ, il y a Grégoire Körmer donc qui était sur le 100 miles qui venait de passer parce que c'était la même boucle que le 110. Et puis moi, dans ma tête, j'avais qu'une envie, c'était de le reprendre et puis passer du temps avec lui. Parce que c'était un coureur que je suivais déjà sur les réseaux, qui m'inspirait. Et donc j'ai souvenir en fait de cette première montée, puisque la course commençait en montée. Donc 1000 mètres vraiment dans le pentu, où j'étais avec mes bâtons, mais moi je ne sais pas du tout me servir de bâton, je bâtonnais un peu comme je pouvais. Et puis je voyais sa frontale au loin, avec un ciel magnifique, étoilé, enfin, c'était vraiment... J'ai pas pris de photos, mais toutes les photos, elles sont dans ma tête. Et puis, je le reprends en haut de la bosse, et un peu intimidé, enfin, je savais pas trop comment l'aborder. Et puis il me regarde, il me fait « Ah, voilà le Breton !» Et là, je me dis « Waouh, ah ouais, putain, il sait qui je suis !» Et c'est vrai que ça m'a motivé pour la suite de la course. On a un petit peu discuté, je lui ai demandé comment ça allait, comment il se sentait. Et voilà, donc c'est un petit souvenir que j'ai dans un petit coin de ma tête pour ma première sur un format un petit peu plus long.
Trop bien, bonne anecdote. Hein. Ouais. C'est clair que ça va être impressionnant hein, quand tu commences à être dans les baskets de ces coureurs que tu admires. Grégoire qui est un mec super.
Ouais, super posé. Et puis on a bien discuté aussi à l'arrivée. Bah, il me demandait comment ça se fait que tu fasses des aussi longues distances aussi jeune, donc tu vois, c'est la question qui revient toujours.
T'en as pour un moment encore.
Ouais.
Avec des vieux dans notre sport.
Sinon, ils grandissent.
Puis à 35, tu vas dire, ah, petit jeune, là, qui arrive à vraiment, ouais. Putain.
Non, donc voilà, c'était un bon moment, quoi. Ça a pas duré longtemps, ça a duré 2-3 minutes, puis bon, il était dans sa course aussi, donc j'étais pas là pour le déranger, donc... Mais c'était sympa et ça je me rappelle.
Ah, il est impressionnant Grégoire parce que il est chef cuistot à Chamonix et putain il arrive à se mettre des entraînements en plus de son boulot. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver un moment pour enregistrer ensemble parce que il fait des amplitudes assez importantes au niveau du travail plus tous ses entraînements et on galère en fait Pourtant, on se connaît maintenant. Enfin, j'ai vu à La Réunion, là, on s'est vu à Chamonix, on s'est vu même deux fois à La Réunion. Et à chaque fois, on a du mal à trouver un moment pour enregistrer.
Ouais, pour se poser.
Mais il est sacrément costaud. Grégoire, bah écoute, super, ouais, c'est clair, hein, ça date. Il y a des coureurs comme ça que t'admires et que tu te dis, putain, si je le bats lui un jour, waouh.
Alors le bat pas forcément, mais c'est plus des gars que j'admire. Par exemple, j'ai rencontré François Daen sur l'échappée belle à Belledonne, donc on a un petit peu discuté. J'ai rencontré Courtenay au siège de Salomon à Annecy. Donc c'est vrai qu'elle est super, enfin elle est impressionnante. C'est une fille que je suis depuis maintenant, bah depuis mes débuts. Et ouais, toujours, c'est vraiment l'image que j'avais d'elle, quoi. Super souriante, super ouverte. Elle se prend pas la tête. Et moi c'est ça, c'est ce que j'aime. Tu vois dans le football, moi j'avais des idoles qui forcément bah sont pas du tout accessibles. Que là tu peux envoyer un petit message sur les réseaux à un gars que t'admires, pour un conseil ou pour n'importe quoi, il prendra le temps de te répondre, quoi. Et c'est ça qui me plaît.
C'est vrai qu'on a de la chance dans ce sport de, bah, tu vois, enfin, moi, tout, sur le podcast, j'arrive à voir à peu près qui je veux. Alors, François Daen, Kylian Jornet, c'est un peu plus compliqué, normal. Mais bon, règle générale.
C'est comme un recours au final. Tu fais une proposition et puis ils te répondent, que ce soit positif ou négatif.
Ouais.
Ils sont toujours ouverts à la discussion, au partage. C'est ça que je trouve fascinant, quoi.
C'est clair, c'est clair. Bah écoute, merci Théo pour ce très bon moment. J'espère que, chers auditeurs, vous avez apprécié vous aussi cet échange. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, à le partager. Où est-ce qu'on te suit, Théo ?
Eh bien, on peut me suivre sur Facebook, sur Instagram. C'est pas compliqué, hein, c'est Théo Leboudec.
Top. Eh ben, je mettrai tous les liens dans la description si vous voulez en savoir un peu plus sur l'année de Théo et puis suivre ses aventures et ses progressions et puis toutes ses victoires qu'il va nous claquer cette année encore. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Merci beaucoup Théo pour ce moment, c'était top.
Et merci à toi François pour l'invitation et puis pour cette belle heure de partage.
Et ben avec plaisir, à bientôt.
À bientôt, ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcasts, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planettrail.com. À bientôt!
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code PLANETRAIL, PLANETETRAIL. Tu auras moins 15% sur ta commande. Et moi, je te souhaite un très, 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 très bon footing, très bon trajet. Bref, ce que tu es en train de faire, je te le souhaite un très bon. Allez, à bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.